Radio Okapi.
Bienvenue à toutes et à tous à ce journal midi sur Radio Okapi. En voici les titres. La motion de défiance contre le Premier ministre déposée hier vendredi à l'Assemblée nationale a récolté à l'heure actuelle plus de 300 signatures. C'est la détermination des députés de l'Union sacrée qui veulent en finir avec le gouvernement Ilunga Ilunkamba pour insuffisance des résultats. L'AMIBA a produit 40 000 carats de diamants de septembre 2020 à janvier 2021, la performance saluée par le conseiller principal du chef de l'État en mission au Kasaï oriental est consécutive à l'appui financier du gouvernement à la relance de la minière de Bakwanga. La RDC a beaucoup à gagner dans l'accord de libre-échange et ne peut rester à l'écart de cette opportunité. C'est Jean-Lucien Boussa, ministre d'État et ministre du Commerce extérieur, qui le dit après l'adoption hier par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif. C'est lui l'invité de ce journal midi sur Radio Okapi. Voilà pour les titres. Vous êtes les bienvenus. Plus de 300 députés de l'Union sacrée pour la nation ont signé la motion de censure déposée hier vendredi au bureau de l'Assemblée nationale. Ces députés veulent déchoir le gouvernement Ilunga Ilunkamba pour défaillance et incompétence notoire au regard des articles 100 et 146 de la Constitution. Cette motion, une fois déclarée recevable, devra être examinée dans les 48 heures, soit lundi de la semaine prochaine, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le député national André Mbata explique au micro de Michel Kifindangoy.
Une motion de censure a été déposée hier, conformément aux articles 100 et 146 de la Constitution, et aussi conformément à l'article 214 et 215 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette motion pourrait être recevable et devait être signée par un quart des députés nationaux. Donc, le minimum requis était de 125. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas 125, c'est 301 députés nationaux qui veulent donc le départ du gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour défaillance et pour incompétence notoire dans la conduite des affaires de l'État.
Vos collègues du FCC estiment que le bureau d'âge n'a pas qualité d'examiner une telle motion. Est-ce que vous espérez voir votre démarche aboutir?
Oui, vous savez, au terme de l'arrêt de la Cour constitutionnelle est bien interprété, cet arrêt a autorisé l'Assemblée nationale, même pendant cette session, de contrôler le gouvernement en vertu de l'article 100 de la Constitution. Or, quand on contrôle le gouvernement, on peut aussi sanctionner, c'est lié.
Et nous allons dans la province du Tanganyika. Le Centre Carter Canada a facilité jeudi l'installation du comité de pilotage du programme Voix et Leadership des Femmes. Ce comité comprend des représentants des deux consortiums des organisations féminines de la province du Tanganyika. Expédit Mamba Mobé pour plus de lumière.
L'activité a culminé avec la signature de l'acte d'engagement par les membres du comité de pilotage du programme VLF au Tanganyika. Quant à la mission du programme Voix et Leadership des Femmes, voici ce qu'en dit Madame Marie-Joséphine Tchakolo, coordinatrice nationale de ce programme.
Le programme vise à renforcer la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo.
Pour ce qui est du Tanganyika, Madame Séraphine Fatouma, chef de division provinciale, genre, famille et enfants, donne les orientations ci-après.
Vous êtes appelés à jouer un grand rôle de faire entendre la voix des femmes et des jeunes filles afin que ces dernières jouissent de leurs droits à la santé, de la reproduction, à l'accès à l'éducation fonctionnelle, au cours de rattrapage scolaire et à la participation au développement communautaire durable.
Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
La société minière de Bakwanga a produit 40 000 carats de diamants en l'espace de 5 mois, soit de septembre 2020 à janvier 2021. Ces chiffres sont livrés par le conseiller principal du chef de l'État au terme de sa mission le week-end dernier au Kasaï oriental. Cette performance, reconnaît Abbé Théo Chilumba Kabeya, est le résultat de la dotation financière de 5 millions de dollars américains que le gouvernement a disposé pour la relance des activités minières à l'AMIBA. Abbé Théo Chilumba Kabeya au téléphone de Esther Ndalafina.
Nous, en tant que conseiller du chef de l'État, là où il y a des actions du gouvernement, quand nous allons en mission quelque part, nous avons ce devoir-là de jeter un coup d'œil pour faire rapport au président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que je suis allé à la MIBA. Et les autorités de la MIBA m'ont conduit jusqu'au polygone où je suis allé moi-même palper de mes doigts ce qui est en train de se faire. Et j'ai remarqué beaucoup de choses. Nous avons visité la laverie, nous avons vu comment ça fonctionne, ça tourne. Nous avons visité la centrale de triage. On a constaté aussi que le personnel a vieilli. La production était de plus de 42 000 carats de diamants. Les impressions étaient bonnes parce que j'ai vu la détermination, la volonté de faire quelque chose. Et ils nous ont même expliqué comment ils ont dû répartir la somme qu'ils avaient reçue. Donc, avec peu de moyens, moins de 3 millions de dollars, ils ont commencé la production. Voilà ce qui nous a vraiment touchés, cette volonté-là.
L'Assemblée nationale a examiné et adopté ce vendredi le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il reste donc au Sénat d'autoriser cette ratification par la RDC pour que ce traité entre en vigueur au Congo. Une fois ratifié par la RDC, le libre-échange pourrait apporter beaucoup de changements commerciaux au pays et pourrait résoudre le problème d'appartenance de la RDC à plusieurs organisations régionales. Plus de détails avec vous, Michel Kifinangoï.
Conformément à l'article 2 de cet accord, la zone de libre-échange continentale africaine a pour objectif de créer un marché unique pour les marchandises et les services afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain. En ratifiant cet accord, la RDC consent à faire partie du marché libéralisé à travers des cycles de négociations et contribue à la circulation des capitaux et des personnes physiques tout en facilitant les investissements. Grâce à la zone de libre échange, la RDC acceptera de brader sa souveraineté douanière afin de poser les bases de la création d'une union douanière continentale, promouvoir et réaliser le développement socio-économique ainsi que la transformation structurelle des États parties. Le pays de Félix Tshisekedi devra donc faire face à la compétitivité des économies des États parties au niveau continental et mondial. La zone de libre-échange promeut par ailleurs le développement industriel de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.
La RDC et le Rwanda, deux pays voisins, sont appelés à collaborer sur les échanges commerciaux. Profitant de son séjour à Kinshasa, la ministre rwandaise du Commerce et Industrie, Souraya Akuzia-Remier, était reçue en audience par sa collègue de l'économie, Akacia Bandubola, ce vendredi. Au cours de leur entretien, elles se sont convenues de mettre en place une mission mixte pouvant élaborer une feuille de route pour améliorer la relance économique entre les deux États. On écoute la ministre de l'économie, Akacia Bandubola, dans cet extrait choisi par Richard Junior Kamunga.
Puisque ce sont des projets d'intérêt commun, ça veut dire et le Congo, le Rwanda, nous sommes en train de développer justement des intérêts de partenariat gagnant-gagnant, où tous les États vont développer, n'est-ce pas, des projets qui vont aller dans le sens du bénéfice de notre peuple, de nos peuples respectifs. Nous avons échangé évidemment sur pas mal de dossiers, sur différents secteurs. Évidemment, premièrement, l'objectif principal, c'est travailler de manière consensuelle pour la stabilité et la paix dans la région du Grand Lac, mais aussi particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui en proie à des groupes armés nationaux et étrangers.
Et parlons à présent de cette accalmie et retour à la normale sur les marchés de produits pétroliers à Mbandaka. Le litre de l'essence se vend à nouveau à 2200 francs congolais depuis deux jours. Les stations-service de la ville ont dû renouveler leur stock et du coup, les revendeurs et des conducteurs de taxi-moto ont repris leurs activités habituelles à la grande satisfaction générale. Cependant, la société civile déplore les conséquences de la récente flambée des prix et exige aux autorités compétentes de ne plus tolérer pareil situation. Le point avec Paul Richard Malingela.
La ville de Mbandaka vient de passer une semaine de tension due à la rareté et à la flambée du prix d'essence. C'est depuis mercredi dernier que les stations-service Kobil et Engen ont repris la vente du super au prix officiel. Le litre est revenu aujourd'hui à 2200 francs congolais, alors qu'il avait galopé jusqu'à 7 voire 10 000 francs congolais. Les revendeurs Kadhafi ont aussi observé la baisse. Mais au regard de la tension qui a prévalu dans la ville à la suite de cette flambée, le cadre de concertation de la société civile a mis en garde son vice-président Barnabé Bongambo.
Les cadres exigent aux services régaliens d'être très attentifs prochainement pour les problèmes relatifs à la gestion des stocks de produits pétroliers. Donc le cadre a mis en garde aussi bien les sociétés pétrolières que les services concernés pour éviter des manœuvres spéculatives, parce que c'est la spéculation qui est à la base de la hausse des prix.
De son côté, le maire de la ville dit avoir pris des dispositions afin d'éviter une nouvelle crise. Maire Didier Dada.
Nous avons décidé ensemble que, à partir de maintenant, là, donc, le prix du carburant doit revenir à 1$. Vous avez constaté aussi que le prix du carburant a baissé.
Notons enfin que plusieurs motards qui avaient parqué leurs engins ont repris la circulation. Bondaka, Paul Richard Malengue, la radio Okapi.
Le tribunal militaire garnison de Lubumbashi a siégé hier vendredi dans l'affaire opposant le ministère public et parti civil contre les présumés braqueurs des cambistes. Les faits se sont passés le 12 janvier dernier à la grande place de la poste en plein centre-ville de Lubumbashi. Une importante somme d'argent avait été emportée, certaines personnes blessées par balles. Jean Gando a suivi pour nous ce procès.
Quatre prévenus, dont trois civils et un officier de la police, ont défilé ce vendredi devant la barre. Devant eux, quatre armes AK-47, un pistolet et de l'argent récupérés sur eux lors de leur arrestation. Ces trois civils sont passés aux aveux, reconnaissant au passage les faits pour lesquels ils sont poursuivis. À la question de savoir d'où sont venues les armes avec lesquelles ils opèrent, un des prévenus, sans broncher, a cité le nom de l'officier de la police qui était à côté d'eux, à qui une part du butin aurait été réservée. Allégation rejetée par ce dernier, arguant que c'est une cabale montée contre lui, car il est parmi ceux qui traquent tous les bandits qui sèment la terreur dans la ville. D'après lui, tout est fait pour les décourager, afin que les bandits continuent leur besoin sans en être inquiétés. Séance tenante, un des prévenus a indiqué au tribunal militaire avoir remis $4,000 à un militaire agent de sécurité qui avait pour mission de l'arrêter. Cet agent, qui comparaissait en tant que renseignant, a tout réfuté. Le tribunal militaire a donc suspendu l'audience, qui va reprendre le lundi prochain. A noter que ces personnes sont poursuivies notamment pour participation à une entreprise criminelle, association de malfaiteurs, tentative de vol et autres. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province du Congo à présent, le calme est revenu dans la prison urbaine de Kikwit où un détenu qui n'a pas bénéficié de la grâce présidentielle de décembre 2020 a tenté de se donner la mort par pendaison. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ses collègues prisonniers, a expliqué le directeur de la prison. Cette tentative de suicide a provoqué hier des vives agitations au sein de la prison au point que d'autres détenus voulaient en profiter pour s'évader. La police a tiré plusieurs fois en l'air et le calme est revenu. Irène Bouma nous explique.
C'était autour des 11h de ce vendredi qu'un détenu de la prison centrale de Kikwit, n'ayant pas entendu son nom sur la liste des bénéficiaires de la grâce présidentielle accordée à certains d'entre eux, a frôlé la mort par pendaison. Ces prisonniers a eu la vie sauve grâce à l'intervention des autres détenus. À la suite de cette situation qui a créé panique et agitation au sein de cette maison carcérale, des coups de feu ont été retentis par des policiers de garde pour intimider les autres détenus qui voulaient profiter pour s'évader. Cette information est livrée par le directeur de cette prison qui indique que ce détenu, poursuivi pour viol qualifié, n'est pas encore condamné. Selon Djanga Maurice, ce détenu a été réanimé et se porte bien pour le moment. Par ailleurs, il précise qu'au total 19 prisonniers, dont 2 militaires et 2 femmes, ont recouvré leur liberté ce vendredi par la grâce présidentielle. Signalons qu'à l'heure actuelle, cette prison ayant la capacité de 1000 détenus en compte 425, dont 12 enfants et 5 femmes, fait savoir Djanga Maurice. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La justice suisse a condamné hier vendredi le milliardaire franco-israélien Benny Steinmetz à 5 ans de prison. Le maillon des miniers a été reconnu coupable de corruption dans le scandale de la mine de Simandou en Guinée. Benny Steinmetz était accusé d'avoir versé des millions de dollars américains de pots de vin à des responsables en Guinée. Il est condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 50 millions de francs suisses. L'affaire remonte à la première décennie des années 2000, lorsque le gouvernement guinéen de l'ancien président Lansana Conté avait déchu le groupe anglo-australien Rio Tinto de l'exploitation des blocs 1 et 2 d'un des plus importants gisements de fer au monde qui se trouve à Simandou.
L'invité.
L'invité de ce journal Radio Capi, c'est Jean-Lucien Boussa, ministre d'État et ministre du Commerce extérieur. Il revient sur l'adoption de la loi autorisant la ratification de l'accord de libre-échange adopté hier par la plénière de l'Assemblée nationale. Selon lui, la RDC a beaucoup à gagner dans cet accord et ne peut en rester à l'écart. Jean-Lucien Boussa est interrogé par Julien Yamouni.
Jean-Lucien Boussa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre d'État en charge de commerce extérieur. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi portant adhésion dans la zone de libre-échange. Quelle est votre première réaction en votre qualité de ministre de commerce extérieur?
Je remercie les élus légitimes du peuple congolais pour avoir voté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Les élus du peuple ont bien saisi l'enjeu du bénéfice d'un accord commercial préférentiel entre pays africains. Le peuple congolais doit donc saisir cette opportunité, offre ces marchés communs préférentiels qui nous offre, passez-moi la tautologie, beaucoup d'avantages. D'après plusieurs études, cet accord commercial va permettre de stimuler la croissance économique, d'élargir l'inclusion économique, de créer des emplois et de réduire la pauvreté. C'est aussi par le développement du commerce que la croissance économique peut être tirée et l'économie peut être diversifiée. En second lieu, le chef de l'État congolais va présider les destinées de l'Union africaine. L'un de ses dossiers phares, c'est l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Il fallait donc lui donner cet outil qui lui permet de pousser les économies africaines, mais en même temps de faire de la RDC un pays qui agit à ce niveau de leadership pour permettre à l'Afrique d'avancer.
Beaucoup d'observateurs pensent que la RDC n'est pas compétitive à ce stade. L'entrée dans cette zone de libre-échange est un risque. Que répondez-vous à cela?
Bon, moi je le comprends. Mais le marché commun africain, comme toute autre ouverture de la RDC à d'autres marchés, marchés américains, asiatiques, européens, autres, constitue des opportunités à ne pas rater, donc à saisir à tout prix. La RDC ne peut donc pas s'y soustraire au risque de compromettre, ses chances de décollage économique, là où 53 États sont d'accord et s'activent à profiter de ces marchés communs préférentiels. La RDC ne peut pas être absente. La question qui se pose finalement est celle de savoir, et si la RDC n'adhérait pas à ces marchés communs africains, qu'adviendrait-il? C'est la question fondamentale. Dans cette hypothèse, monsieur le journaliste, la RDC court les risques énormes d'assister à la fragilisation et à la déconfiture de son économie. En ce sens que notre pays deviendra l'espace économique le plus cher pour tous nos voisins et voire pour toute l'Afrique. Il y a moins de risques, il y a plus à gagner qu'à perdre. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des défis à relever.
Dans les débats, j'ai entendu pas mal de députés qui disaient mais qu'est-ce que nous allons exporter vers les autres marchés africains. Que répondez-vous? Est-ce que vous avez des produits à exporter, lesquels?
Mais bien sûr que oui, la RDC a 6049 lignes tarifaires. Ça veut dire 6049 produits exportables. À nous de pouvoir nous activer.
Secteur public. Lesquels? Vous ne répondez pas à ma question. Lesquels?
Je sais, cacao, quinquina, huile de palme, que sais-je encore. On peut exporter autant de produits. Je ne vous cite pas la gamme de produits miniers. Ah ben non. Donc nous avons beaucoup de produits exportables. Je reviens sur 6049 lignes tarifaires. De saisir les opportunités que nous offre ces marchés. Ce n'est pas le seul marché que nous devons saisir. Le marché chinois est là. Le marché américain est là avec la Goa.
Et donc, si je vous comprends bien, vous êtes satisfait du bénéfice que va tirer votre pays, la RDC?
Tout à fait. La RDC va en être bénéficiaire. Nous avons 9 voisins. Imaginez-vous que nous soyons capables d'assurer une production soutenue de plusieurs produits, d'une gamme large de produits. Mais nous avons un marché de 295 millions d'habitants, les pays de l'Afrique centrale. C'est un marché très large.
Un dernier message à ceux qui hésitent encore.
Je crois qu'il n'y a plus de doute. Les Congolaises et Congolais ne devraient pas douter. Les chefs de l'État s'engagent, le gouvernement s'y engage. Nous avons tenu compte des contraintes de notre économie, mais surtout, nous avons voulu les minimiser davantage et capter les opportunités que nous offrent ces marchés.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
Merci.
Jean-Lucien Boussa, ministre d'État et ministre du Commerce extérieur, invité de ce journal, répondait aux questions de Julien Nyamoni. C'est Julien Nyamoni qui a supervisé cette édition qui est mise en onde par Willem Lungamba et la coordination était assurée par Richard Junior Kamunga. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur la toile www.radiocapi.net.